Les matins se poursuivent. Très bon réveil à tous avec le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Les Européens optent pour un report flexible du Brexit jusqu'au 31 octobre prochain. Quid des élections européennes, de l'accord négocié avec Theresa May? Nous poserons ces questions à notre correspondant à Bruxelles dans un instant.
Nous irons aussi à New Delhi en Inde. 900 millions d'électeurs vont voter pour un scrutin qui va durer 5 semaines. Les législatives débutent ce matin et face au Premier ministre sortant, 3 femmes se font entendre.
Quel plan de paix ont les États-Unis pour le conflit entre Israël et la Palestine après la réélection de Benjamin Netanyahu? La Maison-Blanche pourrait dévoiler ce plan bientôt, nous y reviendrons.
Et dans cette édition, nous nous intéresserons aussi à une étude du Centre National d'Évaluation du Système Scolaire. Si les élèves français ont progressé à l'écrit, les trois quarts d'entre eux ont encore de très grosses difficultés à l'oral.
Des difficultés pour les langues étrangères, nous y reviendrons. Dans un quart d'heure, Frédéric Seyss s'intéressera à la possible privatisation d'aéroports de Paris. Le texte critiqué doit être validé ce matin à l'Assemblée nationale. Le divorce pourrait être repoussé au 31 octobre. La première ministre britannique Theresa May a accepté cette nuit la proposition des 27 autres pays membres de l'Union européenne. Les dirigeants se sont réunis à Bruxelles jusque tard pour plancher sur le report du Brexit. Report fixé donc au 31 octobre. 6 mois de plus, pourrait-on dire. Pas tout à fait, car il y a des conditions. Bonjour Pierre Benazet.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondant à Bruxelles. Pierre, certains appellent ce report une flextension, une extension flexible, car le Royaume-Uni pourra quitter l'Union européenne si un accord est signé.
Oui, effectivement, et ces conditions, elles sont un certain nombre à avoir été écrites cette nuit. Elles ont été difficiles à trouver, ça a été une source de débat considérable entre les 27. Elles sont pas aussi fortes que ce que certains espéraient, comme par exemple la France. La première condition, c'est la tenue d'élections européennes au Royaume-Uni fin mai. Theresa May s'y est engagée cette nuit, mais si le scrutin ne s'y déroulait pas, il y aurait un Brexit automatique le 1er juin. Mais en fait, la condition première, c'est l'accord de sortie. Ce nouveau report, il a été concédé par les 27 uniquement pour laisser le temps à Theresa May d'obtenir un vote positif à la Chambre des communes, d'obtenir enfin la ratification de cet accord. Dans le principe, le Royaume-Uni pourra d'ailleurs sortir de l'UE dès que ce sera fait, avant même cette date du 31 octobre. Et c'est là que se situe la flexibilité dont vous parliez, la flexibilité de l'extension. Le mot est du Taoiseach du Premier ministre irlandais, Leo Varadkar, la flextension. Et rappelons-le, les deux seules autres options sont soit de renoncer au Brexit carrément, soit un no deal, la sortie sans accord. Et puis, les Européens imposent aussi qu'il n'y ait aucune renégociation de cet accord de sortie, ni aucune négociation sur la future relation euro-britannique, sauf de la fameuse déclaration politique, celle qui en fixe le cadre général.
Alors, pour arriver, Pierre, à ce report de 6 mois, report possible, on l'a compris, le choix a-t-il été difficile? Y a-t-il eu cette nuit des temps entre les 27, Pierre?
Oui, des difficultés, des tensions, effectivement. D'ailleurs, les 27 ont mis 5 heures à se mettre d'accord sur leur proposition, celle qu'ils ont présentée à Theresa May. Des tensions sur les conditions, parce que certains voulaient en rajouter, comme par exemple la France, qui proposait en quelque sorte que le Royaume-Uni abandonne son droit de veto sur certaines décisions qui n'engagent que les 27, choix du président de la Commission, choix du budget européen. Et puis, sur la durée, certains voulaient une extension très longue, un an carrément. La France voulait une extension courte, l'Autriche aussi. Et finalement, on a coupé la poire en deux. C'est un compromis parce que finalement, beaucoup ne croient pas que Theresa May puisse avoir un vote positif aux communes dans un délai court.
Merci beaucoup Pierre Benazet en direct ce matin de Bruxelles pour France Culture. Quelle réaction maintenant à Londres? Londres qui a 6 mois de plus pour trouver une solution. Comment cela est-il perçu outre-Manche, Antoine Gignot?
Je vous donne une image pour résumer la situation. La caricature à la une du Télégraphe avec Theresa May par terre, à quatre pattes, son accord entre les dents, tenu en laisse par les responsables européens. La formule qui revient le plus dans la presse ce matin, c'est l'humiliation de la Première Ministre. Ce nouveau report de 6 mois jusqu'au 31 octobre est vécu comme un cauchemar d'Halloween, reprend le Guardian. Il oblige les Britanniques à organiser des élections européennes. Il a aussi un coût pour les entreprises, 600 millions d'euros par semaine de manque à gagner à cause de l'incertitude, expliquent les analystes de Goldman Sachs. Theresa May, elle, continue de dire « ce n'est pas ma faute, si le Brexit est bloqué, c'est à cause des députés ». Et la première ministre explique qu'elle espère toujours trouver une solution. Les tabloïds, en réponse, pointent les négociations bloquées avec le parti travailliste, les conservateurs en crise. Allons-nous un jour sortir de l'Union européenne, demande le Daily Mail. Et le Sun conclut, le gouvernement est paralysé et en chute libre dans les sondages. Les électeurs en ont marre des mensonges. Le seul espoir, c'est l'arrivée d'un nouveau dirigeant.
Merci Antoine Gignot. Je rappelle que vous êtes notre correspondant à Londres. Autre élection qui se profile et qui débute d'ailleurs aujourd'hui en Inde. Élections législatives, elles ont débuté ce matin et elles vont durer plus d'un mois. 900 millions d'Indiens sont appelés à renouveler la chambre basse du Parlement. C'est la plus grande élection du monde. Le grand favori en Inde est le parti nationaliste hindou, le BJP, mené par le Premier ministre Narendra Modi. Face à lui, trois figures fortes, trois femmes qui n'hésitent pas à l'affronter directement, Sébastien Farcy.
La première porte un patronyme bien connu. Priyanka Gandhi est la sœur du président du Congrès et petite-fille de l'ex-première ministre Indira Gandhi. Elle ne se présente pas, mais mène une campagne de terrain et elle est humaine et rassembleuse, là où Narendra Modi apparaît comme agressif et dogmatique.
Je vous demande de tout cœur de réfléchir avant de voter. Comment voulez-vous voir votre vie changer? Comment aider les femmes à se sentir protégées?
Il y a ensuite Mayawati, la reine des Dalits, les anciens intouchables. Ancienne ministre en chef du plus grand état indien de l'Uttar Pradesh, elle capte le vote de ces basses castes martyrisées par les hindouistes du BJP. Elle a fait alliance avec les socialistes, ce qui double ses chances de réussite. Enfin, la plus féroce que Narendra Modi doit affronter et Mamata Banerjee, qui n'hésite pas à l'attaquer sur son terrain favori, la promotion de l'hindouisme.
Le BJP se donne le droit de dire qui est hindou ou pas. Ils avancent le sabre à la main et frappent ceux qui ne sont pas d'accord avec eux. Ce sont des talibans hindous. Ceci n'est pas notre hindouisme et nous n'avons pas besoin de son certificat.
Mamata Banerjee, aujourd'hui chef du gouvernement du Bengale, s'est dite prête à prendre la tête d'un gouvernement national de coalition anti-Modi.
Sébastien Farcy, correspondant de RFI à New Delhi pour France Culture. Cette élection-là est programmée le 4 juillet prochain, la présidentielle en Algérie. L'annonce a été faite par le nouveau président par intérim quand le chef de l'armée algérienne, lui, s'est engagé hier à soutenir la période de transition du pays. Il a toutefois mis en garde les manifestants contre la poursuite de leur mouvement de contestation du régime. C'est aussi la rue qui se soulève au Soudan depuis plus de 4 mois et plus fortement depuis plusieurs jours, plusieurs nuits d'ailleurs, dans la capitale à Khartoum. Ce matin, les organisateurs de la contestation appellent les habitants de Khartoum à se rendre massivement devant le quartier général de l'armée. Ils demandent toujours à l'armée de les soutenir contre le président Omar el-Béchir. L'armée soudanaise doit d'ailleurs bientôt faire une déclaration importante. Voilà ce que disent des médias ce matin dans le pays. Certains journalistes expliquent même à l'instant que des véhicules militaires soudanais se déploient sur les ponts et dans les grandes artères de Khartoum, où des gens scande en ce moment même, il est tombé, nous avons gagné, à propos du président Omar el-Béchir. Nous y reviendrons évidemment dans les rendez-vous d'information sur France Culture. Après sa victoire aux élections législatives en Israël, Benjamin Netanyahou a été chaudement félicité par son ami Donald Trump hier. Le président américain laisse maintenant entendre qu'il pourrait dévoiler le plan de paix pour le Proche-Orient, un plan préparé par son gendre Gregory Phillips.
Le document fait une cinquantaine de pages et Jared Kushner, le gendre et conseiller du président, il travaille depuis un peu plus de 2 ans. À la Maison-Blanche, 4 ou 5 personnes seulement connaissent le contenu du plan. Mais Donald Trump est persuadé que le texte permettra un accord ultime entre Israéliens et Palestiniens. Si Jared n'arrive pas à faire la paix au Proche-Orient, alors personne n'y arrivera, disait-il encore le week-end dernier à Las Vegas. À l'automne, la Maison-Blanche expliquait que ce plan serait équilibré, pourtant en déplaçant son ambassade à Jérusalem, puis en reconnaissant la souveraineté de l'État hébreu sur le plateau du Golan. L'administration Trump n'adresse des signaux qu'aux Israéliens. On ignore si le plan Kushner prône une solution à 2 États. On ne sait pas comment sera traitée la question de Jérusalem. Et dans cette partie de poker, les Américains ne vont pas dévoiler leurs cartes tout de suite. Ils attendront sans doute que Netanyahou reconduit et finit de bâtir sa coalition.
Le Premier ministre entame justement les tractations pour former sa coalition avec les ultranationalistes et les juifs ultra-orthodoxes. Benjamin Netanyahou vise 65 sièges sur 210.
Eh bien, il est 8h09 sur France Culture. La suite des matins avec le journal de Clara Lecoq-Réal. Le procès d'Abdelkader Merah entre dans sa dernière ligne droite avec cet après-midi les premières plaidoiries des avocats des parties civiles.
C'est un procès en appel d'Abdelkader Merah, le frère de Mohamed Merah, auteur des attentats de Toulouse et Montauban en 2012. Procès également de Feta Malki. Il est aussi jugé pour complicité, accusé lui d'avoir fourni un gilet pare-balles et une arme au tueur. Il s'est exprimé à la barre hier, Florence Turme.
Il apparaît toujours en retrait, les questions et les regards centrés sur Abdelkader Merah, impassible dans le box des accusés. Plus petit et plus fluet, cheveux noirs bouclés, Feta Malki flotte dans une chemise bleue un peu trop grande pour lui. Mohamed Merah, je l'ai connu quand j'étais au lycée, mais je le voyais peu, il avait pas le même âge que nous. Lui, il regardait Tom Sawyer et Dragon Ball Z. Plus tard, il lui a acheté une voiture, 3000 euros, et un ordinateur pour l'anniversaire de sa fille. Puis il y a eu cette rencontre autour de la table, dans la maison de sa compagne, où Mohamed Merah récupère le gilet pare-balles volé à une fonctionnaire de police que Feta Malki a lui-même acheté à deux gamins. Celui qui se présente comme le commercial de la cité a aussi des armes et notamment un pistolet mitrailleur Uzi que Mohamed Merah emporte avec lui pour le nettoyer. L'arme est rouillée, la compagne de Feta Malki a creusé la terre avec une cuillère à soupe un soir de pluie pour l'enterrer dans le jardin. Et la présidente s'agace des réponses de cette femme de 45 ans qui répète « je sais pas » à la barre des témoins, qui n'a jamais posé aucune question sur la provenance des objets dérobés. Elle a 6 enfants de 6 pères différents. La vie, dit-elle, elle est déjà assez compliquée comme ça. Feta Malki lui soutient qu'il ne savait rien des intentions meurtrières de Mohamed Merah. Et aujourd'hui, comment réagissez-vous au fait de lui avoir confié cette arme, questionne la présidente. Il a enlevé la vie à des gens, détruit des familles, répond l'accusé en pleurs. Je regrette de tout mon cœur, mais faut être juste dans la vie. Je suis un délinquant, mais pas un tueur, pas un assassin.
La loi dite anti-casseur est parue au journal officiel ce matin. Elle entre donc en vigueur aujourd'hui. Cette loi vise à renforcer et garantir le maintien de l'ordre public dans les manifestations. La semaine dernière, le Conseil constitutionnel avait censuré son article 3. Il prévoyait l'interdiction administrative de manifester. Cette loi-là doit être définitivement validée ce matin par les députés à l'Assemblée nationale. La loi PACTE pour Plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises. Elle prévoit notamment la privatisation d'aéroports de Paris, ADP, un projet remis en cause par l'initiative de près de 250 parlementaires de l'opposition. Ils ont enclenché la procédure de référendum d'initiative partagée. Est-ce une alliance de circonstances ? Frédéric Saïs posera la question dans 5 minutes environ dans son billet politique. Avant cela, penchons-nous sur cette étude publiée ce matin par le CNESCO, le Centre National d'Évaluation du Système Scolaire. Étude sur l'apprentissage des langues étrangères en France. Si les collégiens ont tout de même progressé depuis 2010 à l'école, écrit, les trois quarts d'entre eux ont de grosses difficultés à l'oral, Hakim Kasmi.
La France arrive très loin derrière les pays du Nord et de l'Est de l'Europe. La faute notamment à une mauvaise évaluation des élèves à l'oral. Brigitte Gruzan, professeur émérite à l'École supérieure du professorat de Bretagne.
Pour moi, la classe de langue, c'est un laboratoire, c'est un endroit où on s'essaye. Si vous demandez un billet pour aller à Edinburgh, vous trompez parce que vous ne prononcez pas bien Edinburgh. Dans la vraie vie, ça va être un peu embêtant. Mais dans une classe, vous n'allez pas vous tromper de chemin. Donc, il faut que les élèves s'essayent. C'est là, c'est le lieu.
Un malaise que confirme Romain en première littéraire à Courbevoie, en région parisienne.
Mon accent est horrible en anglais. Et à chaque fois que je passe devant la classe, j'ai des élèves qui vont rigoler à cause de mon accent. Et ça, c'est quelque chose de stressant. Et tout le monde n'a pas la même chance. Face aux langues, tout le monde n'a pas le même apprentissage et la même prononciation des langues.
L'étude souligne également que les difficultés d'apprentissage de langues viennent aussi d'un manque de formation dès le primaire, puisqu'ils sont assurés à 80% par les professeurs des écoles qui eux-mêmes ne maîtrisent pas forcément l'anglais. Or, c'est à cet âge-là que les élèves sont le plus réactifs, selon Laurie Marion, institutrice dans l'Académie de Bordeaux.
Pour pouvoir arriver à apprendre une langue, il va falloir qu'ils répètent, et ils sont très friands de ça. Et quand la langue elle est apprise un peu plus tard, comme au collège par exemple, ce qui va être déterminant, c'est la réflexivité de la langue, et la réflexion que l'on va amener à eux pour qu'ils puissent comprendre cette langue, et qu'ils puissent avoir des éléments tels que la grammaire, par exemple, pour pouvoir progresser.
En attendant, Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, doit présenter son nouveau plan d'action sur l'apprentissage des langues étrangères la semaine prochaine.
Il n'était à cette époque pas question d'apprendre les langues étrangères. Je vous parle là d'un temps qui date d'il y a au moins 67 000 ans. Ah. Une nouvelle espèce humaine qui vivait à cette époque a été découverte aux Philippines par une équipe de chercheurs. Vous en avez parlé ce matin dans les matins de France Culture. Guillaume Erner avec l'un de vos invités, Florent Détroit. Il est chercheur, paléo-anthropologue au Musée de l'Homme, co-auteur d'un article publié à ce propos, à propos de cette découverte d'une nouvelle espèce humaine. Florent Détroit était donc l'invité de France Culture et il vous a expliqué, Guillaume, à quoi ressemblait cet Homo lusonensis.
Il faut se rendre compte quand même que le petit nombre de fossiles qu'on a trouvés, c'est pas rien, hein, c'est un événement rare quand même de découvrir des choses comme ça, qui nous donnent des indications. Par exemple, la taille des dents, qui est extrêmement petite, nous indique que vraisemblablement c'était un hominine de petite taille. Mm-hmm. Sauf que on n'en est pas vraiment sûr, puisque il y a quelques exceptions, en particulier chez certains de nos ancêtres. Hein, Homo habilis avait des très grosses dents, il était très petit. Alors pour la petite histoire, quand on était en train de faire les fouilles et quand on a commencé à trouver ses restes, quand j'ai vu cette toute petite prémolaire avec trois racines, je me suis dit, oulala, qu'est-ce que c'est que cette chose? Les trois racines, c'est un caractère très très primitif qu'on retrouve chez nos très très vieux ancêtres africains, entre autres, qui vivaient il y a 2 ou 3 millions d'années. Hein.
Florent Détroit, co-auteur de l'article « Une nouvelle espèce du genre Homo découverte aux Philippines », article publié ce matin dans la revue Nature. Interview de 7h15 à réécouter en longueur sur
les pieds préhensiles comme les vôtres.
Vous êtes
exactement
un expert, Guillaume Werner. Est-ce que je peux vous donner la météo de jeudi qui débute? Alors, du soleil au nord de la Loire, quelques pluies et des nuages encore au sud. Il fait 8 degrés ce matin à Strasbourg et Lille, 9 à Paris, 12 à Bordeaux et Lyon, 14 à 16 degrés en bord de Méditerranée. Je crois que les températures ont un peu augmenté en 2019 par rapport à il y a 67 000 ans.
Merci Clara Lecoq-Réal.